Je ne pourrais pas intervenir sur le sujet de l'excision si le GAMS Association ne m'apportait pas sa connaissance du terrain, sa connaissance de la sociologie des groupes concernés, sa connaissance de la façon dont ils vivent les choses, dont ils les interprètent, parce que mon discours serait totalement inadapté et totalement inefficace. Alors je ne peux pas parler de ce qui se passe dans les villages d'Afrique, parce que ce n'est pas mon terrain et je ne le connais pas, mais je peux parler de ce qui se passe en France. Mon cas personnel, par exemple, c'est que je suis venue au GAMS il y a 10 ans, parce que le GAMS est venu littéralement me prendre par la peau du cou et me chercher, parce qu'eux avaient besoin de mes compétences de médecin, gynécologue, pour répondre à des questions. C'était l'époque où Pierre Foldès commençait à opérer beaucoup de femmes au niveau de la réparation. Et ils avaient besoin de mes compétences de médecin pour répondre à ces femmes-là qui se posaient des questions sur les aspects médicaux de la réparation. Mais moi, j'avais absolument besoin des connaissances du GAMS et de son expérience et de sa connaissance du terrain pour pouvoir m'adresser à ces femmes. Autrement, il n'y aurait pas eu de dialogue et il n'y aurait pas eu de communication. Donc je pense que les associations ont réellement un rôle majeur dans le développement des soins aux femmes excisées, en interpellant les médecins, en interpellant les soignants et en leur donnant des outils adaptés pour qu'ils puissent soigner correctement. Il y a un facteur culturel massif dans la prise en charge. Le médecin lambda n'est pas forcément le meilleur interlocuteur pour les populations concernées s'il n'est pas, je dirais, pris dans ce réseau interactif association corps médical.
La connaissance, la formation des professionnels est nécessaire et je te remercie pour ton témoignage parce qu'en Rhône-Alpes, par exemple, il y a les sages-femmes, les médecins qui pensaient que cette pratique n'existe pas parce qu'il y a un problème de connaissance, même du problème sur les femmes. Il y en a qui n'arrivent même pas à voir. Il y a une femme qui disait que moi, j'ai accouché, il a fallu que j'accouche 3 fois pour qu'on sache que je suis excisée. Et quand on ne connaît pas, ce n'est pas du tout évident. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les professionnels, hein, surtout des sages-femmes, des CPF, des gynécologues. Et je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en partie quand même. Eh bien, de plus en plus maintenant, des professionnels qui nous appellent que oui, tiens, j'ai rencontré une femme. Elle est concernée. Est-ce que c'est possible de la rencontrer? Et donc, ça permet aussi de dialoguer. La parole, c'est important. Souvent, bon, chacun reste dans sa partie, hein, que oulala, c'est leur culture, je ne vais pas y toucher. Ça me regarde pas, c'est son intimité. Et deux fois, chacun attend que l'autre s'engage là-dessus. Et quand on arrive à en parler, on peut aller plus loin. C'est des choses qui ne se disent pas facilement, parce que l'excision, il faut être initié, hein, il faut être justement, il faut passer par là pour pouvoir aussi en discuter. Et on n'en parle pas avec qui n'est pas concerné. Et c'est vrai, si on n'a pas les outils, on n'a pas les codes pour rentrer en dialogue, c'est un peu compliqué pour un meilleur suivi. D'où l'intérêt de travailler justement avec les personnes concernées, les communautés, les associations, là-dessus. L'atelier, en fait, on devait faire des recommandations. Donc, ce serait bien que la salle aussi, justement, apporte. Nous, on est là juste pour faciliter aussi. D'accord.
May I repeat my question? And specifically about Kenya, can you add how many gynecologists there are and for which population of women in the whole country? How many midwives? And so, do you use internet? Do you use movie theater? Do you use TV programs?
Thank you. Number one, I want to state that I do training to health workers, nurse midwives, clinical officers, doctors, and we also train community leaders. the first question you raised as to whether we show videos and other documentaries, you have to understand your audience. There are lots of videos, educational videos, which are there from different organizations, from World Health Organization, from FIGO, from many other sources that are appropriate for majority of the ages. Majority of the ages. And children have not yet reached that level, but for the children, what we are trying to do in Kenya is to inculcate the education of FGM in the primary and secondary school curriculum. That's what's happening. So, but one major component of the program of our training is multifactorial, multi-disciplinary, in that I will go and train on health aspect, the health complications of FGM. I will have a lawyer who will be giving us the legal implications of FGM so that people will understand what it means to be practicing FGM in the country and the implications of the law and the punishment that will be given. There are others who will give the psychosexual health consequences of FGM. And then we have to do the social circumstances that actually promotes the practice of FGM. And then now we go around to discuss the myths, the misconceptions that people have been having around why the practice of FGM. For example, if they say that in their culture they believe that uncut genitalia will grow long and dangle between the legs, or that it kills the babies, we have to now to go and understand those things and discuss with them as to why that is not true. So it's not that in any form of training, you want to say that you only go as doctors to train health workers. You have to bring in on board this other different group of people so that including in certain areas, people may be practicing FGM because they think it's Islamic religion that promotes it. And therefore, we have to bring in an Islamic scholar to demystify or to delink the practice of FGM from Islam. So you have to know exactly what is the major reason why people practice it, understand them, because within one country, people practice for different reasons. You need to understand them. And depending on what the major reasons why they want to practice, you go for that reason to kind of falsify their beliefs, give them the health consequences, give them the legal implications, give them the psychosexual health complications associated with the practice, so that now they have to understand that they're doing something harmful, which has no benefit, but it has the legal aspect that you might go to jail, that kills people, that is associated with a lot of complications, and therefore, other than being harmful, it has no benefit.
Bonjour, je m'appelle Clara Caldera, je travaille pour l'association italienne Femmes pour le Développement. Nous travaillons depuis à peu près 35 ans pour la promotion des droits des femmes et des filles dans les pays en voie de développement. Et donc on travaille beaucoup sur la santé sexuelle et reproductive, les droits inhérents, évidemment les mutilations également. En Italie, ce qu'on fait essentiellement, c'est du plaidoyer auprès des décideurs et de la promotion, comment on dit, de l'awareness rising, de conscientisation, on dit en français, voilà, conscientisation sur ces sujets-là. En fait, le panel d'aujourd'hui, moi je suis très contente qu'on parle de la prise en charge des femmes excisées, parce que ben, jusqu'à il y a 10-15 ans, on parlait que de la prévention, hein. surtout dans le domaine du développement, tous les projets étaient axés sur la prévention et même le langage était sur la prévention. Et je me souviens quand j'habitais au Burkina Faso avec une collègue burkinabée qui me disait « Moi, ça fait 30 ans que dans mes classes, à moi, j'enseigne aux enfants, je leur explique ce que c'est l'excision, etc. Mais j'essaye d'être très sensible dans la façon dont je parle parce que je sais très bien que dans ma classe, surtout au lycée, parce qu'elle était prof au lycée, ben, la moitié des filles, si ce n'est trois quarts, sont déjà excisées. Donc en fait, elle avait déjà une grosse sensibilité sur le langage, mais c'était un peu un exemple isolé comme ça. Parce qu'en règle générale, le langage prédominant était un langage de prévention où la femme excisée est victime, point à la ligne. Donc je suis très contente que maintenant on commence à sortir un peu de ce cadre-là. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, associations, au niveau des soins aux femmes excisées, comment les intégrer ce genre d'activité dans nos projets, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Et une autre façon de le faire, complémentaire, c'est, ça pourrait être de faire du plaidoyer auprès de nos décideurs politiques pour qu'ils s'intéressent également à cette question. Et je pense à l'exemple de mon pays, l'Italie, où en fait, que je sache, par exemple, on n'a pas encore de clinique ou de centre où on fait la réhabilitation. Voilà, pour donner un exemple. Un autre aspect sur lequel, et encore comme suggestion on va dire, sur lequel les associations peuvent travailler, et nous on travaille beaucoup sur cet aspect depuis des années, c'est la communication. C'est travailler avec les journalistes, travailler avec les médias, parce que les médias influencent énormément la façon de penser des gens. Et les médias sur cette question ont un langage qui est exécrable, et je pèse mon mot. On travaille avec eux beaucoup pour qu'ils évitent justement un certain nombre de mots, de termes qui sont toujours péjoratifs, qui sont toujours négatifs. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire par rapport aux soins aux femmes qui sont déjà excisées. Donc la communication vers l'externe, vers les médias, par rapport aux soins aux femmes excisées. Et là, par contre, je pose une question, une réflexion que j'ai depuis hier, parce qu'on parle beaucoup de cette opération de réhabilitation qui, même si ça fait que 10 ans qu'on l'a fait, c'est une opportunité en plus que peuvent avoir des femmes excisées qui le souhaitent, de trouver peut-être une solution à l'excision. Certaines la trouveront, d'autres ne la trouveront pas, mais je pense qu'il est important que ce genre de soins, ce genre de services, soit accessible aux femmes qui le souhaitent. Alors encore une fois, je me demande comment bien communiquer pour ne pas créer des attentes qui seraient ensuite déçues. Ça aussi, c'est un domaine dans lequel, moi qui fais partie d'associations, je me pose la question, comment communiquer là-dessus ? Comment promouvoir ce genre de service ? Voilà, il y a plein d'autres réflexions, mais bon...
Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent témoigner, qui veulent... Oui. La parole aux femmes.
Bonjour. Donc, Babi Kumba, je suis étudiante en Master 2 en sciences de l'éducation à Toulouse et stagiaire donc, au GAMS national. Donc, ce qui m'interpelle tout de suite... C'est est-ce qu'on doit finalement promouvoir cette opération ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut savoir simplement informer les femmes qu'il existe une opération. On n'en connaît pas finalement. Tout à l'heure, il y avait Aminata justement qui avait posé la question des suites de l'évaluation de l'opération. Voilà. Mais simplement d'informer parce qu'on ne peut pas prospecter, on ne peut pas promettre qu'il y aura des résultats positifs parce que justement cette opération-là c'est quelque chose qui est je pense que le rapport qu'on puisse avoir avec cette opération pour l'avoir vécu c'est propre à chaque individu, c'est propre à chaque histoire, c'est propre à chaque rapport qu'on puisse avoir avec son corps. L'éducation qu'on a reçue depuis sa tendre enfance, le fait de vivre en France, d'être né en France ou bien d'être né au pays. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre justement, quand on parle de prévention, on est souvent dans cet amalgame-là où on va juger finalement. Mais on ne le fait pas intentionnellement, mais finalement, c'est ce qui se produit. Dans les intentions, il y a, voilà, je pense qu'il y a un gros écart entre ce qu'on voudrait, ce qui se passe, mais finalement, le résultat est tout autre pour ces personnes-là. Et voilà, je pense que voilà, il faut vraiment avoir cette vigilance-là, parce que on ne peut pas juger cette pratique-là. Je pense que là, il y a peut-être eu à un moment donné ce moment-là où voilà, on a quand même jugé cette pratique-là, on a quand même jugé ces personnes-là. Et effectivement, je pense que voilà, l'approche du GAMS, avec notamment la méthode de Paulo Freire, où ils appellent justement à la conscientisation des personnes. C'est aux personnes d'avoir, si on leur met à disposition justement ce panel de conséquences, ces conséquences-là, elles sont scientifiques, elles sont objectives. Elles ne peuvent pas en être autrement. Et avec tout cette conception occidentale, il faut vraiment être vigilant là-dessus, quoi. Voilà.
Je trouve que c'est très important comme témoignage. C'est pour ça que c'est important de donner la parole aux personnes concernées pour justement en parler. Et comme elle a si bien dit, hein, on n'a pas à promouvoir justement cette pratique, travailler plutôt justement comment communiquer autour de ça, mais c'est surtout l'information. Informer les personnes hein, du dispositif et puis... c'est à chacune hein, de prendre sa décision. Et ça peut être tout de suite, ça peut être dans plusieurs années, ça peut être jamais aussi. Donc il faut aussi prendre en compte toutes ces dimensions. Et au niveau des services, on n'a pas non plus à promouvoir un service donné en disant voilà, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Oui.
Je pense oui. Qu'on propose sans plus. Je suis présidente d'une petite association qui est née d'un groupe de parole et toutes mes adhérentes ne sont que des rebelles à la culture. Elles sont toutes des demanderesses au statut de réfugiées politiques. Elles obtiennent parce qu'elles ont subi l'excision et le mariage forcé. C'est donc des battantes, c'est des combattantes, c'est des rebelles à la culture. Elles se battent contre leur famille, elles se battent contre leur gouvernement qui viole les constitutions, les traités internationaux et le reste. Néanmoins, ces femmes, elles prennent tout leur temps pour se faire réparer parce que c'est une décision individuelle, voilà. Et parce qu'il faut, comme l'a dit dans un autre atelier le docteur Foldes, il faut d'abord qu'elles apprennent par des examens l'état de leur corps. Aucun d'entre nous ne connaît l'état de son corps sans examen, et donc après, elles se font réparer, et les ambassadrices de cette réparation, c'est sûrement pas à nous de l'être. En revanche, je vois que celles qui ont été réparées dans l'association disent aux autres « ma vie a été totalement transformée ». Donc c'est celles-là qui les invitent à le faire. Mais elles prennent leur temps, elles ont raison, leur corps leur appartient, elles sont des femmes libres, sinon elles n'auraient pas fui l'Afrique pour demander le statut oui. De réfugié politique. Et c'est intéressant aussi. De voir qu'elles prennent leur temps.
Voilà, très bien. On peut aussi entendre, il faut aussi entendre que justement... C'est dans l'information, il ne faut pas justement faire rêver aussi les gens en disant que ça va marcher à 100%. Nous avons eu des femmes, des témoignages des femmes qui sont venues nous dire que si j'avais su que c'était comme ça, je n'allais pas le faire. Parce que voilà, elles ont suivi l'opération et après, c'est encore plus compliqué, selon enfin, quelques témoignages qu'on a eus. Donc, c'est pas non plus...
Je voudrais dire que là, les associations ont un rôle énorme parce que le GAMS reçoit... Je ne sais plus combien de centaines par an de coups de fil de femmes qui justement s'interrogent sur la réparation, demandent des conseils, demandent d'en parler, qui ne sont pas du tout... je voudrais parler de ça parce que j'en ai entendu parler, je voudrais que vous me donniez conseil. Et le rôle du GAMS, et on l'a joué, je crois, vraiment depuis 10 ans, ça a été d'aider à constituer des équipes, notamment dans plusieurs hôpitaux publics, d'aider à constituer des équipes qui entendent ça. Dans l'une est l'équipe du Kremlin-Bicêtre actuel, qui à l'époque était à l'hôpital Rothschild. On a vraiment été à l'origine de la création de leur équipe, puisque c'est sur la sollicitation du GAMS que l'équipe de Rothschild à l'époque a réfléchi à la question et a constitué une unité. qui, comme par hasard, est l'une de celles qui évolue sur vraiment une écoute et une, je dirais, une absence totale de privilégier, enfin, ne privilégier absolument pas la chirurgie par rapport au reste de la prise en charge. Ça, c'est vraiment un rôle que le GAMS France, en tout cas, a joué dans les 10 dernières années avec plusieurs équipes des hôpitaux publics parisiens. Et par contre, par rapport au fait que malheureusement, je dis malheureusement parce que vraiment, des fois, j'ai, comme disent les jeunes, un peu les boules, le fait qu'on n'ait pas le droit de conseiller des établissements et d'orienter vers des établissements en particulier plutôt que dans d'autres, je vous assure que parfois, j'aimerais bien pouvoir dire qu'il y a quand même un certain nombre de charlatans, je ne peux pas utiliser un autre mot, qui opèrent dans notamment un certain nombre de cliniques privées de la région parisienne, qu'il faudrait qu'on ait le droit de les dénoncer, vraiment.
Justement, il y a... Il y avait une question, il y a le monsieur qui devait intervenir au fond. Juste un chiffre, pendant que le micro tourne, on a eu en 2014 une trentaine de demandes pour la réparation, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 4 femmes qui sont allées jusqu'au bout, et je trouve même que c'est même... il faut aussi entendre ça, c'est pas toutes les demandes qui vont aller jusqu'au bout.
J'entends parler de l'orgasme, c'est quoi l'orgasme? Alors, qu'est-ce que je peux...
Justement, c'est là où chaque femme...
Voilà, la sexualité... Ça veut dire qu'elles ne connaissent pas. Est-ce que la cause, est-ce que c'est l'excision? Est-ce que je dois lui dire, va voir les médecins qui réparent ou... Je ne sais pas. Moi, ça commence à me poser... Je joue aussi un peu le rôle de la médiation entre mère, fille, et puis ces problèmes médicaux qui me sont posés, auxquels je ne sais pas répondre. Si je dis, allez-y, essayez de vous réparer, ce sera comme si je fais la promotion. Dans ce cas, pourquoi pas, puisqu'il y a une bonne partie de la deuxième génération qui parle quand même bien du bienfait de ce qu'on appelle les réparations, etc. Bon, c'est juste...
Oui, nous avons le devoir d'informer.
Un petit souci...
Nous avons le devoir d'informer.
Que je rencontre, que je voulais partager avec tout le monde quand même. Voilà.
Nous avons le devoir d'informer les personnes qui viennent nous poser des questions. Mais nous n'avons pas à faire la promotion que oui, là-bas c'est mieux, il faut aller plutôt là-bas que là. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Et par rapport à l'orgasme, c'est vrai que les mots ont leur sens. C'est important de travailler aussi autour de ces mots. Il ne faut pas penser non plus que toutes les femmes... atteint l'orgasme. Bon, je ne vous apprends rien. Oui, j'attends que ce soit des femmes françaises non excisées, occidentales non excisées. Il y a des femmes qui n'atteignent pas l'orgasme non plus. Des femmes africaines non excisées ou excisées, tout le monde n'atteint pas l'orgasme. Si on centralise la réparation autour de l'orgasme, les gens seront plus déçus parce que c'est pas... Même si on retrouve l'organe, la sensibilité, c'est pas... Enfin, vous êtes des médecins, vous pouvez m'aider. Hein, on ne retrouve pas forcément la sensibilité. Ça, c'est un peu... Ouais.
We're supposed to...
Oui, un micro.
Excuse me, we're supposed to close at 6, and it's 6 now. But I'll just give you one quick one.
Okay? Speak quickly. Je voulais juste dire que quand on vous dit de prendre... C'est pas le fait de dire on oriente une personne vers l'opération. L'opération n'est pas forcément une obligation pour les femmes. Oui, ça c'est clair et net. Oui, mais après, orienter quelqu'un vers telle ou telle clinique, je crois que c'est ce que vous vouliez dire, vous, tout à l'heure.
Oui, informer. Nous remercions vivement, profondément, sincèrement tous ceux et celles qui nous ont aidés à faire advenir la première consultation internationale sur... la prise en charge des femmes excisées. Je pense notamment aux intervenants internationaux qui ont fait le déplacement. Je pense à notre comité scientifique qui a été très efficace et à tous nos sponsors. Le premier d'entre eux, c'est le comité français d'UNICEF et notamment également l'association des bénévoles d'UNICEF France. Et je tiens à remercier Bénédicte Genreau, mais aussi, surtout, Carole Vigneault et Daniel Lebidois qui nous ont permis de... qui ont permis de prendre en charge l'organisation sur le site de l'événement pendant 2 jours. Ils ont fait un travail extraordinaire qui nous a permis à nous, comité de pilotage, mais aussi à nos invités, de se concentrer sur la recherche et de débattre entre nous. Donc merci à eux. Et puis finalement, bien entendu, nos autres sponsors, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, l'Institut Émilie du Châtelet, l'INED, et, le label TEPSIS et last but not least, le secrétariat d'État aux droits des femmes qui nous a soutenus et grâce auquel nous avons pu vous offrir cette traduction pendant les 2 jours. Et je remercie également d'ailleurs les traducteurs qui ont fait un excellent job. Je passe la parole à Béatrice Cousin pour le mot de la fin.
Donc bah écoutez, je ne peux que m'associer à ces remerciements collectifs. C'est vrai qu'on a eu cette folle idée il y a à peu près 2 ans de faire la première consultation autour des mutilations génitales. Et en fait, je dois avouer que c'est vraiment Saïda qui nous a donné le courage de faire ça, qui a passé énormément de son temps, même si bien sûr on était là avec Armel et Louis. Mais en tout cas, elle a passé énormément de son temps et on peut lui dire un grand merci. Donc on peut considérer, et nous le considérons tous, que cette expérience est une expérience réussie. Et bien sûr, il faut penser à la pérennité. La pérennité, ce sera sans doute la deuxième consultation. Cette deuxième consultation sera sans doute au Kenya. And now I will call Dr. Geneza to explain us what you wish to do if we continue this adventure in 1 or 2 years.
I wish to thank the organizers, Sarah, Saida, and Dr. Cousin for inviting us, and for the Foreign Affairs Ministry of French government for allowing us to come. I think I want to state here that the embassy, even in Nairobi, were very friendly. They made the facilitation for the visa very easy, and I think I want to thank every one of you for making this happen. It's also a very good opportunity that we met with friends, colleagues in the fight against FGM from across the world, and thanks for bringing us together. I am the director for the Africa Coordinating Center for Abandonment of FGM. We call it ACAF, A-C-C-A-F, based in the University of Nairobi. We hosted a conference like this one in 2011, November, and I think Saida got some names from the list of that conference. And initially we said we wanted to hold that kind of conference every 2 years, but I know 2 years was, many people say, what are you going to discuss after 2 years? What have you done to have the discussion, to have the meeting? We had said before we left Nairobi that we'll have a meeting of this kind in Nairobi in April 2016. What we are trying to do is to hand over the fight from scientific community, from advocates, shared with the government, the regional government from the East and Central Africa, and what is called IGAD, the Intergovernmental Authority on Development. We want to show the government that this is actually a development human rights issue, because anything that affects women will affect the 50% of the population. It will affect development in those areas. So my appeal is when we send out the invitation, please, I want you to attend. I know you will not, I will not sponsor people from Europe to come to Africa. It's also part of a holiday destination. So when you come to Kenya, you know that it's also a holiday season, so extend a few days to enjoy yourself. The weather's not cold like this. It's a friendly weather. it's peaceful. There's a lot of wildlife and many other things for people to enjoy. Probably what we may ask, which might be a bit coming too early, is how do you contribute to making that that coming conference be more successful than even this one and the one we held in Nairobi? So think of, from your own position, from your own organizations, how do you contribute? Even if you send delegates from here, that's a good contribution. If you help us in raising money so that we can bring Mustafa Touré from Mali to Nairobi, that's the kind of thing that we're looking for. I know we shall look for money to bring people together. We did it the last time, but please, definitely we require a hand. So that when we come next time, we shall combine what we have done today with what else do we need to do after this. We have done a good job. We have shared a lot of knowledge. I think what we have not done together is what is it that we're going to do as a group on the fight against FGM. Okay. Probably it was done in French, but I missed it a bit. So I think we want to take it to next level so that from scientific research, from advocacy, now we want to move it to policy. And that's where we want to involve the governments. That is the direction we are thinking, and we are hoping that you will be with us. Thank you.